France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. 8 morts dans une frappe attribuée à Israël en Syrie, dont plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution iranienne. L'Iran promet déjà une réponse. Alors qu'à Jérusalem, la critique se fait plus politique. Des milliers de manifestants contre Benjamin Netanyahou, nous sommes sur place. Après le Pas-de-Calais, le centre-ouest de la France a les jambes dans l'eau. Lyon et la Côte d'Or en vigilance rouge au cru. Le pic attendu cette nuit. L'actualité, c'est encore le syndrome de la Havane. Ces diplomates victimes de nausées ou de vertiges à Cuba, ils pourraient être liés à la Russie. On l'apprend dans une grande enquête de presse aujourd'hui. L'enseignement privé catholique réplique aux critiques sur son financement. Et puis Hugo Décrypte se lance dans les petites annonces de boulot. Juste après ce journal, un bilan 50 ans après la mort de Georges Pompidou. Y a-t-il matière à être nostalgique? Le standard du téléphone sonne et est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Des frappes qui risquent d'accroître encore un peu plus les tensions dans la région. Cet après-midi, l'ambassade d'Iran à Damas en Syrie a été la cible de tirs attribués à Israël. Bonsoir Noé de Pignède. Vous êtes notre
bonsoir,
correspondant
Adam,
dans la région, Noé. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle d'au moins 8 victimes, dont un haut gradé iranien.
Oui, en fin d'après-midi, plusieurs missiles ont détruit une annexe de l'ambassade d'Iran à Damas. Une réunion de chefs militaires iraniens était en cours dans le bâtiment. Plusieurs sources sécuritaires libanaises et syriennes confirment que Mohamed Reza Zahedi se trouve parmi les victimes. Ce responsable des gardiens de la révolution dans la région est l'ancien commandant de l'armée de l'air et de terre de la République islamique d'Iran. Il était une cible privilégiée d'Israël, cible donc désormais éliminée. Cette frappe s'inscrit dans une campagne d'assassinat ciblée menée par l'armée israélienne ces derniers mois. En décembre dernier déjà, un autre commandant des gardiens de la Révolution, Razi Mousavi, avait été tué dans sa résidence de Damas. Et en janvier, c'est le numéro 2 du Hamas, Saleh El-Arouri, qui avait été assassiné à Beyrouth. Les services de renseignements israéliens ont promis d'éliminer tous les responsables des massacres du 7 octobre. La chasse à l'homme continue contre les hauts gradés du Hamas et de leurs alliés. De son côté, l'Iran annonce déjà une réponse décisive à l'attaque de cet après-midi.
Noé Pignette en direct de Beyrouth au Liban. Pour ces frappes qui se sont donc accentuées depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, Israël qui assume de traquer ses membres où qu'ils se trouvent. Mais l'unité nationale plus que jamais se fissure. Et ce ne sont plus seulement les familles d'otages qui se mobilisent. Des milliers d'Israéliens ont prévu de camper jusqu'à mercredi devant le Parlement à Jérusalem pour réclamer la démission de Benjamin Netanyahou. Des affrontements ont eu lieu hier. Des politiques prennent la parole. C'est très nouveau. Michel Paul est allé à la rencontre de ceux qui se mobilisent.
C'est une sorte de happening qui se déroule aux abords de la Knesset, le Parlement israélien, pour la seconde journée consécutive, avec parfois des allures de kermesse, des ateliers de discussion, cela va de la musique classique, des rencontres avec des ex-otages et jusqu'à l'occupation et la politique interne, avec un dénominateur commun. Ishai Dan, un militant du premier jour, explique.
C'est que toutes les organisations qui sont ensemble en demande de le Premier ministre de quitter son poste et de faire tout pour libérer les otages.
Les groupes sont très éclectiques, les discussions souvent très animées. Pour Amnon Toledano, un des organisateurs, ce qui prévaut, c'est la détermination.
Vous voyez un village de toile. L'idée est que les gens restent et continuent de protester ici et ailleurs dans le pays. Le but est que, dans un pays démocratique, quand le peuple fait entendre sa voix, si c'est assez fort, cela peut donner des résultats.
Et un peu plus tard ce soir, il y aura un nouveau rassemblement, toujours au pied de la Knesset. Et ce scénario va se répéter jusqu'à mercredi, date du début des vacances parlementaires de la Pâque juive. Jérusalem, Michel Paul, RFI, pour France Inter.
Et la coalition politique du Premier ministre ne tient plus qu'à un fil aussi parce que les ultra-orthodoxes sont censés être mobilisables dans l'armée à partir d'aujourd'hui. Benjamin Netanyahou n'a cessé de demander des reports à la Cour suprême pour éviter qu'il claque la porte de son gouvernement. Le Premier ministre qui n'a pas tardé à réagir par ailleurs à ce vote du Parlement israélien aujourd'hui. Pour l'interdiction de la chaîne Al Jazeera, il veut agir immédiatement. seulement, dit-il, pour faire cesser la diffusion.
À 19h presque 5, Hélène, de l'eau qui dépasse la hauteur des genoux dans l'Yonne.
En vigilance rouge au cru comme la Côte d'Or, l'Armançon à cheval sur les deux départements va encore monter pour atteindre son pic, sans doute autour de minuit. Plusieurs dizaines d'évacuations sont évacuées, plusieurs dizaines d'habitations sont évacuées. Thomas Nougaillon est à Vénaré-les-Laumes en Côte d'Or, où les habitants ont été mis à l'abri dans la matinée.
Michel, par exemple, il a dû évacuer son logement rue de la Paix avec son épouse suite à la montée de la Brenne. En fin de matinée, il n'était toujours pas retourné chez lui. De toute façon, sa maison de plein pied était envahie par les eaux de la rivière.
Pour l'instant, on n'est pas retourné, mais il y a au moins 60 cm d'eau. Donc voilà.
On sent que vous en avez gros sur la patate.
Oui.
Vous avez appelé l'assurance, qu'est-ce que vous allez faire
maintenant? Non, pour l'instant, on doit attendre que l'état de catastrophe naturelle soit décrété. Et ensuite, on appelle l'assurance pour attendre l'expert. Et la dernière fois qu'on a été inondé, le passage de l'expert, il a fallu attendre 6 mois.
Ça fait 3 fois que Michel et son épouse subissent de telles inondations ces dernières années, explique Michel, dégoûté dans sa rue. C'est sa maison qui a certainement le plus souffert.
Il doit y avoir 2-3 maisons, je crois. J'ai des voisins qui sont beaucoup plus élevés. La cour, il y a quand même de l'eau, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'eau dans la maison, quoi.
Et là, vous allez devoir quitter votre maison quelques jours.
Ah ben là, il faut attendre que l'eau redescende. Et puis, ça va être une histoire d'une bonne semaine, quoi.
Papier peint, meubles, Michel s'attend à de gros dégâts chez lui dans sa maison de Vénaré-les-Laumes. Ce midi, avec son épouse, il devait manger à la salle du pantographe, prendre un café, prendre aussi un petit peu l'air, histoire de se remonter un peu le moral, avant de passer la nuit à l'hôtel. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre, dit-il.
Thomas Nougaillon, France Bleu Bourgogne, l'Indre-et-Loire, elle n'est plus en vigilance rouge, la Vienne redescend. Très doucement, les résidents de l'EHPAD de l'île Bouchard, qui avaient été évacués en pleine nuit, vont pouvoir réintégrer leur établissement. Une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est enclenché pour la Vienne, la Haute-Vienne et l'Indre-et-Loire, précise déjà le ministre de l'Intérieur. Un kayakiste est toujours porté disparu au dernier jour d'un mois de mars, très arrosé. Il n'avait jamais autant plu à Nîmes, par exemple, 242 mm de pluie selon Météo Gare. L'éphémère passage d'Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Éducation nationale a rouvert un débat, celui de l'enseignement privé et de son financement en France, prolongé par ce rapport parlementaire de 2 députés, la Renaissance, l'autre, la France insoumise. Ils réclament davantage de contrôle sur le financement public des écoles privées sous contrat, ça représente 75% de leurs fonds, des établissements catholiques à 96%, qui n'ont pas attendu la remise officielle de ce rapport demain pour réagir. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Et qui y voient un mauvais procès.
C'est un rapport à charge, selon le secrétaire général de l'enseignement catholique. Non, le financement n'est pas opaque. Ce sont les contrôles de l'État qui ne sont pas suffisants, explique Philippe Delorme.
Les pouvoirs publics n'ont pas suffisamment de moyens humains aujourd'hui pour pouvoir contrôler sérieusement l'ensemble de nos établissements. Je ne crois pas qu'il y ait de l'opacité. Après, il peut y avoir effectivement dans quelques établissements peut-être des choses qui ne vont pas, mais c'est justement l'intérêt d'être contrôlé. Si ça ne va pas, il faudra remédier à ces dysfonctionnements. Il faut qu'on soit contrôlé pour lever les doutes qu'il pourrait y avoir ou pour faire taire des rumeurs qui sont infondées.
L'enseignement catholique n'est pas riche, affirme Philippe Delorme. Un tiers des écoles catholiques seraient même fragiles financièrement. Alors l'idée d'un malus proposé dans ce rapport parlementaire le fait bondir. Le député La France Insoumise, Paul Vanier, suggère en effet de pénaliser financièrement les établissements privés qui pratiquent un tri social des élèves. Ce serait contre-productif pour Philippe Delorme.
Une mesure politique visant à réduire le financement des établissements qui n'auraient pas assez de mixité sociale conduirait à l'effet inverse, c'est-à-dire que ces établissements seront de moins en moins mixtes puisqu'il faudra compenser le manque de financement public par les familles.
Aujourd'hui, un tiers seulement des 7200 établissements privés catholiques ont instauré une contribution financière différenciée, c'est-à-dire que le coût de la scolarité varie en fonction des revenus des familles. Le responsable de l'enseignement catholique promet de faire plus d'efforts en faveur de la mixité sociale, comme il s'y est engagé dans un protocole signé avec le ministère, mais ce protocole n'impose aucune contrainte.
Éclairage signé Sonia Princey. Des dizaines d'enquêteurs et 2 équipes cynophiles spécialisées dans le hameau du Haut-Vernay. Personne ne rentre, hormis parmi les gendarmes à la recherche du moindre indice. Sur la zone de découverte samedi des ossements du petit Émile disparu l'été dernier. Une clinique en déshérence, un médecin qui s'accroche, à qui l'on demande finalement de quitter les lieux. Nous sommes en Seine-Saint-Denis à présent, à Livry-Gargan. Le liquidateur judiciaire de l'établissement qui est en faillite et qui est fermé depuis l'été dernier décide d'expulser le médecin qui venait encore y faire des consultations. Un rassemblement de soutien est prévu demain matin pour le défendre dans un département qui souffre de désertification médicale. Laurence Perron nous raconte.
Le combat de ce médecin, c'est la possibilité de continuer à bénéficier des installations médicales de la clinique pour prendre en charge les urgences, les soins non programmés. Les soins non programmés sont officiellement une priorité absolue du ministère de la Santé dans un contexte de pénurie de médecins et dans un département qui est aujourd'hui le plus pauvre de France métropolitaine. Le docteur Franck Attelan.
En psychologie, on appelle ça une injonction paradoxale. Il faut sauver le soin, il faut sauver la médecine. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a un médecin qui voit plus de 300 patients par semaine, qui fait des soins non programmés, donc, et on se permet de lui dire la veille d'un week-end férié que à partir du 2 avril, je n'aurai plus accès au bâtiment.
Depuis juillet dernier, la mise en liquidation judiciaire de la clinique Vauban, élus de tous bords se sont réunis avec l'agence régionale de santé, mais aucune solution n'a été trouvée. Le député LFI de la circonscription, Jérôme Legavre, dénonce un manque de volonté politique.
Il ne fera pas croire que l'État, s'il le décide, n'a pas les moyens de régler la situation et d'offrir à tout le monde une porte de sortie par le haut, dont la population, encore une fois, a besoin. Ça, c'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas m'y résoudre.
Contacté par France Inter, le ministère de la Santé n'a, pour l'heure, pas fait connaître son point de vue.
Et un rassemblement de soutien est donc prévu demain. Et voici une enquête qui lève peut-être le mystère sur le syndrome dit de la Havane. Ces dizaines de diplomates américains frappés de troubles mystérieux, vertiges, nausées, troubles de la vision. En poste à Cuba à partir de 2016, la Russie a été un temps soupçonnée avant que le renseignement américain ne dise l'année dernière ne pas croire à une ingérence étrangère. Bonsoir Eric Bigala.
Bonsoir Hélène.
Une enquête très documentée affirme tout le contraire aujourd'hui, publiée par un média russe indépendant, The Inside, le Spiegel allemand et la chaîne américaine CBS. Longue enquête, très fouillée je le disais, jusqu'à pointer des agents nommément, des agents russes suspectés d'avoir mené ces attaques.
Oui, un exemple. Hein. En 2020, une infirmière épouse d'un agent du département de la justice américain en poste à Tbilissi, en Géorgie, est victime d'une telle attaque à son domicile qu'elle quitte immédiatement et descend dans la rue pour y surprendre un jeune homme grand, blond, qui stationnait juste en face. Elle le reconnaît immédiatement sur une photo que lui montrent les journalistes 3 ans plus tard. Il s'agit d'Albert Averianov, le fils du général Averianov, fondateur de l'unité 2955 du GRU, l'unité chargée des assassinats, sabotages ou attentats à l'étranger. Et c'est pareil pour les attaques de Guangzhou en Chine en 2017. À l'époque, au moins 3 agents de l'unité 2955 se trouvent dans les parages. Parmi eux, Alexandre Mishkin, qui tentera d'assassiner Sergueï Skripal et sa fille l'année suivante à Salisbury, en Grande-Bretagne, avec le poison Novichok.
Et comment les journalistes ont-ils fait pour remonter jusqu'à l'identité de ces agents?
Alors là, c'est le fruit des enquêtes précédentes de Christo Grozev et Roman Dobrokhotov de The Insider, qui enquêtaient déjà sur l'empoisonnement de Sergueï Skripal et qui, à cette occasion, avaient identifié une collection de vrais faux passeports russes fournis aux agents opérant à l'étranger. Facile à repérer ces passeports d'ailleurs. Ils portent tous le même numéro de série à une unité près. Partant, il est relativement simple de suivre leur périple quand leur possesseur s'enregistre sur un vol, se paie un billet de train ou loue une voiture et à chaque fois, ça colle. À chaque attaque du type syndrome de la Havane, on trouve entre 2 et 4 agents de l'unité 2955 présents au même endroit, la veille ou le jour même. Curieuse coïncidence, n'est-ce pas? Mais vous le savez, dans le monde du renseignement, les coïncidences, ça n'existe pas.
Moscou qui ne voit dans ses accusations rien de nouveau. La Russie a été déjà associée à cette affaire. Rappelle aujourd'hui le porte-parole du Kremlin. Rien de probant, sans fondement, assure-t-il aussi. J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, est une fervente opposante au texte qui vient d'entrer en vigueur en Écosse contre l'incitation à la haine envers les personnes transgenres, notamment l'inventrice des aventures des sorciers de Poudlard, résidente écossaise, n'est pas restée silencieuse aujourd'hui. Bonsoir Richard Place.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Londres et le conflit s'enflamme à nouveau.
Oui, J.K. Rowling met les autorités au défi sur les réseaux sociaux Arrêtez-moi. Auparavant, elle avait publié des photos de personnalités trans connues en Écosse, en particulier des criminels. Elle se moque du fait qu'ils affirment être des femmes. La liberté d'expression prend fin en Écosse, écrit la romancière énervée, si la description précise du sexe biologique est considérée comme criminelle. Particulièrement agacée par la déclaration d'une ministre, Siobhan Brown, ce matin sur la BBC, questionnée sur d'anciennes prises de position de J.K. Rowling à la lumière de cette nouvelle loi.
Ça pourrait être signalé et il pourrait y avoir une enquête. Déterminer si c'est un crime, c'est à la police de le faire.
La police écossaise qui s'attend à un flot de plaintes alors qu'aucun moyen supplémentaire ne lui a été accordé. Depuis bientôt 4 ans, J.K. Rowling est en guerre ouverte avec des militants transgenres. Elle avait écrit sur son site à l'époque « Lorsque vous ouvrez les portes des toilettes et des vestiaires à tout homme qui croit ou se sent femme, vous ouvrez la porte à tous les hommes qui souhaitent entrer ». Le début d'une confrontation sans fin sur les réseaux sociaux, jusqu'à des insultes, des menaces jugées crédibles par la police à l'époque. Son adresse personnelle avait même été publiée en ligne. J.K. Rowling n'est désormais plus conviée aux événements en lien avec l'adaptation cinématographique de son œuvre. Les principaux acteurs ont depuis longtemps déjà sévèrement critiqué ses prises de position.
Richard Place, notre correspondant en direct de Londres. C'est une information de nos confrères de France Bleu Nord. Près de 800 migrants ont traversé la Manche ce week-end. Un nombre record. Les ventes de voitures neuves reculent un peu en mars sur un an. 1,5% quasiment. Ça n'empêche pas Tesla de décider d'augmenter ses prix en France. 600 euros de plus pour une entrée de gamme, plus de 2000 euros pour un SUV. L'entreprise est connue pour ses prix fluctuants depuis plusieurs années, mais en général, c'est plutôt à la baisse. Comment expliquer cette augmentation, Mathilde Cariou?
Pas de problème de matières premières ni de transport maritime chez Tesla, selon le spécialiste de l'automobile Bernard Julien. Simplement une volonté d'augmenter les profits sans toucher au volume de production.
Les ventes peuvent difficilement être plus importantes, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Du coup, l'entreprise essaye de maximiser sa profitabilité en faisant le calcul que ça ne devrait pas affecter leur part de marché ou leur capacité à trouver des clients.
Avec un premier modèle autour de 43 000 euros, Tesla garde une position dominante sur le marché du milieu de gamme électrique.
Ils restent juste en dessous du seuil de prix qui permet de toucher le bonus et ils font 2000 euros de marge de plus par voiture sans que ça n'affecte leur capacité à faire concurrence aux autres entreprises.
Les autres en question se positionnent plutôt sur des entrées de gamme électrique, nous dit encore Bernard Julien.
Chez Citroën, un C3 entre 20 et 30 000. On a chez Renault une ER5 qui est positionnée de la même manière entre 20 et 30 000. Donc là, il faut se dépêcher d'occuper ce créneau du véhicule un peu plus accessible que Tesla n'a pas su pour l'instant investir.
Car descendre en gamme implique d'augmenter les capacités de production. Celles de Tesla sont contraintes. Augmenter les tarifs reste donc pour eux la solution la plus viable.
Mathilde Cariou, et puis ce rappel, changement du 1er avril, plus d'obligation de mettre la vignette verte sur votre pare-brise. Il faut tout de même rester assuré.
Va-t-on manquer de saisonniers cet été?
Ailleurs qu'à Paris, où ils seront nombreux à être mobilisés pour les Jeux Olympiques et paralympique, c'est l'inquiétude en ce moment dans le massif des Vosges, notamment Arthur Blanc.
Un chalet perché sur les hauteurs de Busson, vue magnifique sur la vallée, et pourtant pour le recrutement,
c'est très compliqué.
Nabila Lamarzi, DRH du village vacances d'Azureva à Busson, a besoin de 5 salariés en CDI pour l'animation, le service et surtout le restaurant.
C'est vraiment très compliqué, notamment le poste de responsable de restauration. Je fais vraiment un appel en fait pour ce poste-là parce qu'on a des conditions favorables, on a un cadre de vie plutôt agréable, mais là on n'arrive pas à recruter depuis à peu près plus d'un an. En fait.
Depuis un an, ça remonte à la période où les établissements région parisienne ont commencé à préparer les JO. Xavier Grimont, lui aussi, a constaté cette concurrence en tant que président de l'UMI dans les Vosges, l'Union des métiers de l'hôtellerie.
Les jeunes ont plus tendance à aller au niveau du comité olympique que rester dans leur région. Il y a des opportunités. Effectivement, il y a des opportunités. En plus, nous, on sort d'une saison hivernale qui est quand même un petit peu chaotique par un manque de neige.
Alors maintenant, dès qu'un candidat se présente,
On se l'arrache.
La question maintenant est de savoir si les hôtels, gîtes et restaurants vosgiens pourront passer l'été.
Mais est-ce que ça pourra tenir? Il y aura des jours de fermeture dans les établissements. Chose qu'en pleine saison, dans le temps, il n'y a pas toujours de fermeture. Maintenant, on n'arrive plus à faire un roulement pour tenir un établissement ouvert 7 jours sur 7.
Alors que dans le même temps, les touristes sont toujours de plus en plus nombreux, plus 8% l'été dernier dans les Vosges par rapport à 2022.
Arthur Blanc, France Bleu Sud-Lorraine. Et puisqu'on parle boulot, il y a un petit nouveau dans le secteur de la recherche d'emploi. C'est Hugo Décrypte, le youtubeur, 14 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il se diversifie encore en lançant une plateforme d'offres d'emploi et de stages à destination des jeunes. C'est donc Hugo recrute désormais. Bonsoir Victor Vasseur.
Bonsoir.
Enfin, il aide à recruter. On trouve quoi comme annonce sur son site ?
27 offres sont disponibles en ce moment. Il y a une proposition d'alternance en manager commerce chez Decathlon, une autre chez Veolia. On trouve aussi des offres de la part de la SNCF, Bic, Mythique, Doctolib ou encore Chanel. Finalement, ça ressemble à n'importe quel site d'offres d'emploi, sauf que là, les annonces visent à un public jeune comme les étudiants. Hugo Décrypte, c'est devenu un repère pour les moins de 25 ans grâce à des informations partagées sur les réseaux sociaux et ses vidéos d'actualité. Pour ces entreprises, c'est donc une question de visibilité. En plus, elles payent pour figurer sur cette plateforme. Ces entreprises louent à l'année un ou plusieurs espaces de diffusion pour leurs offres. Par exemple, la SNCF a 5 cases, toutes consacrées à des propositions d'alternance en ce moment à Paris, Lyon et Strasbourg. Selon le journal Le Monde, ces espaces coûtent entre 2 et 4 000 euros par an. Les associations et les ONG bénéficient d'une ristourne. En plus de cette plateforme d'offres d'emploi, Hugo Décrypte lance un nouveau média dédié à l'orientation professionnelle. Ça s'appelle Élan, pour faire découvrir des métiers, partager des expériences ou encore donner des conseils comme négocier son salaire.
Merci Victor Vasseur. On retrouve votre article sur le site de France Inter et je redonne l'adresse job.hugodécrypte.com. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être qu'un jour, il y en aura plus.
Eh bien, merci beaucoup Hélène Philly. Dans un tout petit instant, pour nous, c'est le téléphone sonne. On parle des années Pompidou. Vous n'étiez pas né pour nous, les années Pompidou.
Pointe encore.
Moi non plus. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Élodie Callac, les cours d'eau restent sous surveillance.
Oui, de nombreux cours d'eau réagissent avec les pluies des derniers jours. Des crues importantes sont en cours sur le centre-ouest, la Bourgogne, la basse vallée du Rhône. D'ailleurs, la Côte d'Or et Lyon sont en vigilance rouge pour la crue de l'Armançon. Ce soir et cette nuit, des averses parfois orageuses persistent. Elles vont quand même s'estomper. Demain, une perturbation s'invitera de la Bretagne aux Charentes le matin, puis du Val-de-Loire et de la Bretagne vers la Normandie et la région parisienne l'après-midi, avec un vent de sud-ouest jusqu'à 60 à 80 km à l'heure.
Et ailleurs, ce sera plus calme.
Oui, alors souvent nuageux le matin sur une bonne partie nord avec des averses au nord de la Seine. Quelques-unes aussi près des frontières du nord, sur le nord-est jusqu'au nord des Alpes avec un petit peu de neige vers 1400 mètres. Le soleil sera généreux de l'Aquitaine au sud des Alpes. L'après-midi, le soleil se montrera très généreux de la Méditerranée vers les Alpes. Il sera parfois plus voilé à l'ouest, surtout sur la Nouvelle-Aquitaine, le centre-val de Loire et la Bourgogne. Et puis côté thermomètre, 13 degrés attendus à Brest, 14 à Lille, 15 à Paris, Strasbourg et La Rochelle, 17 à Clermont-Ferrand, 18 à Bordeaux, à Grenoble, à Marseille et jusqu'à 21 à Bastia.
Élodie Callac de Météo France, merci beaucoup.